Pas d'affolement. Voilà.
C'est la 52e émission, émission spéciale, spéciale confinement. Alors nous avons fait une émission en différé, bien sûr, pas suivant la procédure habituelle. Et on participe à cette émission, Valérie, Sylviane, Brigitte, Cynthia, Ossine, Guylain, Assédine, Joseph et moi-même Philippe. Voilà, nous allons commencer. Début mars, avant le confinement, nous nous sommes rendus avec Valérie à l'Office du Tourisme. Nous avons réalisé un reportage. Que voici.
Nous sommes en présence d'Antoine, de l'Office du Tourisme de Cadillac, et nous allons lui poser quelques questions.
Pouvez-vous nous dire à quoi sert un office de tourisme ?
Alors, un office de tourisme, ça sert avant tout à renseigner les visiteurs qui sont de passage, mais également à rencontrer les différents professionnels qui sont aux alentours et voilà, les intégrer un petit peu dans l'offre touristique, alors que ce soit des hébergeurs, des propriétés viticoles, des sites de visite, des campings, les collectivités, et puis essayer de mettre tout ça un petit peu en réseau, communiquer sur les animations locales également, les référencer, monter des séjours pour des groupes, voilà, il y a tout plein d'activités.
De possibilités.
Oui.
Qui sont les gens qui s'adressent à vous ?
Alors ce sont souvent des visiteurs ou des locaux. Les locaux viennent rechercher des animations. Vous voyez qu'on a une petite boutique, donc chercher des fois des cadeaux ou quelques spécialités locales pour leurs visiteurs ou leurs copains. Et puis ensuite on a les touristes qui viennent eux à partir de mars-avril jusqu'à fin octobre. Et là eux ils viennent chercher les informations à l'office de tourisme, et là on a affaire soit à des couples, des familles également dans l'été, ou également des gens qui viennent en groupe, des associations voilà, qui viennent sur des journées.
Et êtes-vous rattaché qu'à Cadillac ?
Non, on fait partie, en fait on est un office de tourisme intercommunal, donc on dépend directement de la côté de commune Convergence Garonne, donc on s'occupe de 27 communes.
Avez-vous beaucoup de visiteurs ?
On a l'année dernière, on avait à peu près 8500 visiteurs.
Que proposez-vous sur la région ?
Donc sur la région, en fait, on va orienter les visiteurs suivant leurs demandes, mais souvent ils demandent à visiter des sites patrimoniaux. Donc là, c'est le château de Cadillac, la villa gallo-romaine de Loupiac, le mur d'huîtres fossiles de Sainte-Croix-du-Mont, mais après on a d'autres sites sur le château de Langoiran, par exemple, la forteresse médiévale, le château de Montgenan à Portès, le château de Malaprégnac. Voilà, ça va être les principales demandes. Et puis ensuite, on a tout ce qui est rattaché au viticole. Donc les gens demandent à visiter des châteaux, et également à se balader en pleine nature, donc ce soit à pied, en vélo, voilà.
La navette fluviale fait-elle partie de vos prestations ?
Alors oui, il y a un second ponton en fait à Cadillac depuis l'année dernière, et donc on fait appel à un opérateur en fait sur des dates assez précises pour qu'il y ait des balades en bateau sur la Garonne depuis Cadillac.
Et quels trajets font-elles ?
Deux solutions, soit elle part vers en direction de Langon, soit elle remonte un petit peu la Garonne vers Langoiran.
Parmi tous vos monuments, le château du duc d'Épernon est-il le plus prisé ?
C'est le plus visité, oui.
Avez-vous beaucoup de visiteurs étrangers ?
On a environ entre 20 et 25% de visiteurs à l'office qui sont étrangers, oui.
Travaillez-vous avec des agences de voyage ?
Oui, on travaille avec des agences réceptives qui sont sur Bordeaux. Et on monte des produits pour des groupes avec elles, oui.
Travaillez-vous avec l'Office du tourisme de Bordeaux ?
Oui, on travaille avec eux, notamment au niveau des routes des vins de Bordeaux. On travaille avec eux, oui.
Pour le tabac et le vin aussi ?
Pour le vin surtout. Et puis après, on fait appel aussi à eux comme relais d'animation. On met des affiches à leur office de tourisme pour, par exemple, des animations comme Ruez-vous, comme les journées portes ouvertes des Cadillacs de Bordeaux ou celle de Loupiac également.
Alors, la dernière question, en quelle saison vous avez le plus de visiteurs ?
Le mois où on a le plus de personnes, de visiteurs, c'est août, juillet également et septembre. C'est les trois plus gros mois.
Ouais. Merci d'avoir accepté de répondre à notre question, Jean-Antoine. Merci et à la prochaine.
Merci pour que l'Office du tourisme nous guide à chaque pas.
Avec plaisir. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
C'est encore Philippe. Et j'ai habité dans le Loir-et-Cher et je vais vous en parler de ce département particulier en allant écouter ce reportage. Mon texte aujourd'hui concerne le département du Loir-et-Cher, popularisé par une chanson des années 70 de Michel Delpech. Ce département, dont le chef-lieu est Blois, et de sous-préfectures Vendôme et Pomorantin, a trois régions naturelles. Au nord-ouest, le Perche, région bocageuse de polyculture. Au centre, la Beauce, appelée aussi le grenier de la France. Et enfin, au sud-est, la Sologne, qui vit d'élevage, chasse, pêche, premier producteur en France d'asperges et de fraises. Son chef-lieu, Blois, où a été assassiné dans son château le duc de Guise, a une agglomération d'environ 70 000 habitants. Ses industries, la métallurgie, la mécanique électrique et la chocolaterie Poulain. C'est une région avec un climat un peu comparable par sa douceur au climat de Gironde. Sur le plan sportif, en football, en 1971, l'AJB, le club de Blois, atteint les quarts de finale de la Coupe de France, seulement battu par le futur vainqueur, l'Olympique de Marseille, de Scoblar et Mathilson.
Et maintenant, nous allons écouter une chanson qui a été choisie par Cynthia Eddy Yaga.
Wish I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't want to feel another touch. Don't want to start another fire. Lying in your arms, and I wanna
pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning, and I'm not moving on. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger.
Un reportage ou un texte qui dira plutôt sur Renoir, le peintre Renoir. On va écouter ce reportage de Valérie.
Auguste Renoir, Pierre Auguste Renoir, dit Auguste Renoir, né à Limoges le 25 février 1841, est le sixième de sept enfants issus d'une famille ouvrière. D'un père tailleur et d'une mère couturière, la famille vit assez pauvrement. En 1844, il déménage à Paris, son père espère améliorer sa situation. À 13 ans, il commence un apprentissage à l'atelier de porcelaine Lévy Frères et Compagnie, où il fait la décoration des pièces. En même temps, il fréquente les cours du soir de l'école de dessin et d'art décoratif jusqu'en 1862, où il suit des cours de musique avec Charles Gounod, qui le remarque. Il débute à l'âge de 17 ans pour gagner sa vie en peignant des éventails et coloris des armoiries pour son frère Henri, graveur en héraldique. C'est en 1862 que Renoir réussit son concours d'entrée à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il commence l'atelier de Charles Gler, où il rencontre Claude Monet, Frédéric Basile, Alfred Sisley. Lorsque Gler prend sa retraite en 1864, leur relation se détériore. Renoir quitte les Beaux-Arts. La première œuvre qu'il expose au salon, l'Esmeralda, en 1864, obtient un véritable succès. Après l'exposition, Renoir la détruit. En 1865, des toiles sont acceptées au salon. Un de ses modèles importants est sa maîtresse Lisa Tréhaut, qui a posé pour le tableau Lise à l'ombrelle en 1867. Il a eu deux enfants d'elle. Avec Monet, il fait un séjour à la Grenouillère, un établissement de bains sur l'île de Croissy, sur Seine. Ce séjour est décisif pour lui et sa carrière. Il peint véritablement en plein air. Il change ainsi sa palette et fragmente sa touche. Il apprend à rendre les effets de lumière et à ne plus utiliser le noir pour les ombres. C'est alors que commence sa période impressionniste. Contrairement à Monet, Renoir préfère peindre des paysages. À la guerre franco-prussienne, en 1870 à 1871, il est mobilisé et affecté à la cavalerie de Bordeaux, puis à Tarbes. Il tombe gravement malade et se retrouve hospitalisé à Bordeaux avant d'être démobilisé en mars de l'année 1871. Il rentre à Paris, où il apprend la mort de Frédéric Basile. C'est en mars 1872 que l'artiste rencontre le marchand d'art Paul Durand, Ruel. Il quitte son studio de la rue Notre-Dame-des-Champs en septembre 1873 pour un atelier plus grand. Il expose avec d'autres impressionnistes lors de la première exposition des peintres impressionnistes en 1874. Il réalise son chef-d'œuvre nommé Le Bal du Moulin de la Galette à Montmartre en 1877. Cette toile ambitieuse est caractérisée du style et des recherches de l'artiste Auguste Renoir durant la décennie 1870. Renoir emploie des touches fluides et colorées, des ombres colorées, un non-usage du noir, des effets de texture, un jeu de lumière filtrant à travers les feuillages, les nuages. Il montre un goût pour les scènes de la vie populaire parisienne, pour des modèles de son entourage. Pour les nus, il fait appel à des modèles professionnels, puis à des jeunes femmes qu'il rencontre parfois dans la rue et qu'il paye en leur offrant un portrait, des fleurs, des chapeaux à la mode. Vers 1880, le peintre est en pleine misère. Ses tableaux ne se vendent pas. La critique est souvent mauvaise. Il ne veut plus exposer avec ses amis impressionnistes et de revenir au salon officiel. C'est la seule voie possible vers le succès. Au salon de 1878, il n'expose qu'une toile nommée Le Café. Puis, grâce à des commandes de portraits prestigieux, il se fait connaître et obtient de plus en plus de commandes. Son art devient alors plus affirmé. Il recherche davantage des effets de ligne, des contrastes marqués, les contours soulignés. Il est bon de savoir qu'entre 1881 et 1883, le peintre a effectué de nombreux voyages au contact des œuvres de Raphaël. L'artiste sent qu'il est arrivé au bout de l'impressionnisme et se retrouve dans une impasse. Ce qu'il veut désormais, c'est faire un art plus intemporel, plus sérieux. Il a l'impression de ne plus savoir dessiner. Il faut savoir que l'artiste peintre Auguste Renoir a continué de peindre jusqu'à sa mort en 1919. Sur son lit de mort, il aurait demandé une toile et des pinceaux pour peindre le bouquet de fleurs qui se trouvait sous le rebord de la fenêtre. En rendant pour la dernière fois ses pinceaux à l'infirmière, il aurait déclaré « Je crois que je commence à y comprendre quelque chose ». Le 3 décembre 1919, un grand artiste s'est éteint au domaine des Colettes à Cagnes-sur-Mer, des suites d'une congestion pulmonaire après avoir visité une dernière fois le musée du Louvre et revoir ses œuvres des époques difficiles. Ce grand artiste peintre se nommait Pierre-Auguste Renoir, dit Auguste Renoir. Je me suis documenté sur le site Wikipédia. À vous de visionner sur Internet ses œuvres. Merci.
Moi, Philippe, et je vous ai concocté, alors c'est peu, plutôt la saison, mais un poème sur l'hiver que j'en écoutais maintenant. L'hiver. Voici mon poème d'hiver. Voilà, c'est maintenant l'hiver. Il va de pair. Avec notre saison excessive, l'été qui bientôt arrive. C'est maintenant l'hiver, qui marque une fin, mais aussi un trop-plein de froid et de misère. Pour certains, pour qui c'est la guerre, c'est maintenant l'hiver. C'est le début où certains restent sans but. C'est maintenant l'hiver. Qui coûte cher en chauffage de combustible et qui est la cible de tous les amoureux de Noël et ses enfants heureux. C'est enfin l'hiver.
Bonjour, je suis Guy Lard, intervenant à l'émission Pas d'affolement, nous voilà. Je viens vous présenter une fable de La Fontaine qui s'appelle Les fables et le secret. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter droit est difficile au garde. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, Marie s'écria. La nuit, étant près d'elle, « Oh Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi ? J'accouche d'un œuf ? D'un œuf. Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire. On m'appellerait poule, enfin, n'en parlez pas. La femme, même sur ce cas, ainsi que sur même d'autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit, avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé. Et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. Bon, dites surtout rien, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pendre un œuf gros comme quatre. Oh, nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. Vous manquez-vous, dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre crie déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu de 9, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée de bouche en bouche, allait croissant avant la fin de la journée. Il se montait à plus de 100. Voilà. Au micro Guilla, et maintenant on va écouter une chanson de Georges Brassens. Le titre, c'est Les Amoureux du Bon Public, choisi par Ossine.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Voilà, maintenant nous allons écouter un texte historique sur le roi François Ier que j'ai écrit moi-même. Nous allons l'écouter. Mon texte aujourd'hui concerne le roi de France, François Ier, fils de Louis de Savoie, duchesse d'Angoulême, et du cousin du roi Louis XII. Il naît le 12 septembre 1494. Louis XII n'ayant pas d'héritier, c'est François Ier qui devient roi à la mort de Louis XII, le 1er janvier 1515, et fonde ainsi la dynastie des Valois, qui succède aux Capétiens. Dès qu'il est roi, il se hâte de réaliser son rêve de jeunesse, reconquérir le royaume de Naples, le duché de Milan. Avec son armée, il passe les Alpes et atteint la bataille de Marignan contre les Suisses qui dure 2 jours et finalement triomphe. Il obtient 2 avantages. D'une part, il signe en 1516 le concordat de Bologne avec le pape Léon X qui lui donne un plus grand contrôle sur l'église de France. D'autre part, la paix perpétuelle de Fribourg avec les Suisses. Mais la chance tourne en faisant la guerre à l'empereur Charles Quint. Il est défait à son tour et prisonnier à Paris. Il perd 3 provinces dont la Bourgogne. Pour être libéré, il doit livrer en otage ses 2 fils, François et Henri, qui lui seront rendus 4 ans plus tard contre une énorme rançon. Si François Ier a fait la guerre, il a par contre introduit les arts et les sciences de l'Italie, berceau de la Renaissance. Il fait venir, entre autres, le grand peintre et homme de science Léonard de Vinci. On saura nuancer sur son règne et il meurt à 53 ans. Début mars, avant le confinement, j'ai effectué avec Joseph une petite interview sur les bœufs gras. Alors, écoute.
Bonjour, je suis avec Joseph qui va nous parler des bœufs gras. Bonjour Joseph.
Bonjour.
Vous y allez tous les ans aux bœufs gras?
Oui, je vais tous les ans sur Capsule, ça se trouve. Et il y a un défilé qui se fait avec 2 beaux gras ou 4 beaux gras. Il y a les échassiers qui viennent, il y a beaucoup de festivités gourmandes. On goûte le beau gras et voilà.
Et vous en goûtez des entrecôtes là, quand il y a ces manifestations?
On en goûtait, mais cette année on n'en a pas goûté. Alors. Mais il y a à la salle des fêtes, il y a du beau gras.
Gratuit. Presque.
Il faut payer une participation.
Et alors, il y a du monde à ces beaux gras Capsieux, j'imagine que oui.
Oui.
Combien environ?
Environ, là je sais pas combien, je les ai pas comptés. Alors.
Oui.
Il y a beaucoup de monde.
Et alors, est-ce que c'est une bonne affaire pour les bouchers, ces bœufs gras?
Ben, ça leur gagne un pain, quoi. Ils travaillent pour ça. Et,
oui.
Et les bœufs gras sont élevés à l'essat.
Alors, c'est de l'élevage traditionnel et de qualité.
Oui, de qualité, oui.
Merci, Joseph.
Je vous remercie à vous.
Et maintenant, nous allons écouter la chanson que Joseph a choisie. Je n'ai à l'idée, pour moi, la vie va commencer.
Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. Et je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin comme un troupeau passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays,
vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer.
Comme d'habitude, c'est moi Philippe, j'ai ma chronique sur le sport. Nous allons écouter aujourd'hui le champion Michel Jarry. Ma chronique sur les sportifs concerne aujourd'hui Michel Jarry, spécialiste du demi-fond en athlétisme, né le 13 juin 1936 à Wani dans le Nord. Ses parents sont polonais. Dans sa jeunesse, il est passionné par le football qu'il pratique sans arrêt. Puis, il se dirige vers la course à pied où il accumule les performances avec 9 records du monde, 17 records d'Europe et 43 records de France, variant du 800 mètres au 5000 mètres. Ses rivaux à l'époque sont le français Bernard puis l'australien Ron Clark. Son palmarès est remarquable avec 2 titres de champion d'Europe à Belgrade en 1962 et à Budapest en 1966. Il parvient aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 à obtenir la médaille d'argent. 4 ans plus tard, déception à Tokyo en 1964 où il finit 4e. Il se reconvertit en travaillant en coq sportif Adidas avant de prendre sa retraite à Haute-Corps. C'était, pour conclure, un athlète remarquable et une des figures du sport français des années 60.
Et maintenant, nous écoutons Sylviane qui nous parle de son séjour au foyer de Saint-Michel.
Je suis allée au foyer Saint-Michel 3 semaines pour me reposer, ça m'a fait du bien. Le matin, je prenais mon petit déjeuner, ensuite je faisais ma toilette, après j'allais vers les 10h me promener avec ma copine dans le parc. À 1h, on allait manger au hôtel, après le repas, on prenait le café dans le petit salon. Après, j'allais faire ma sieste jusqu'à 4h. Ensuite, on avait le goûter, après on faisait la cuisine pour notre repas le soir. Des fois, je faisais de la pétanque, on écoutait de la musique, ça passait trop vite. Je vous présente une chanson qui s'appelle « Et demain » pour le personnel qui travaille à l'hôpital et les gens qui sont malades.
Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener. Car y a pas de couleur ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier, ces héros du quotidien qui sont comptés, sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort. Pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ça fait du bien, la 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 la. Arriver là pour qu'on se parle, qu'on recommence à s'amuser avec que dalle, pour qu'on s'appelle, qu'on se dise je t'aime, est-ce que t'as mal. Avec le temps, on retrouvera le temps et la morale. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort. Pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ça fait du bien, la la la. Danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort. Pleurer encore, souffrir encore, mais tenir encore et chanter plus fort. S'aimer encore, danser encore.
Alors, je suis avec Ossine, un de nos animateurs de l'émission Pas d'affolement, nous voilà. Ossine, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous vivez là pendant ce confinement?
Voilà. L'hôpital est fermé. La radio est fermée. Et la radio, l'hôpital, j'en manque beaucoup. Ma journée, je passe en promenée. Comme maintenant, je suis en train de me promener dehors. J'ai la nature et tout.
Donc quand vous vous promenez aussi, vous allez vers quel endroit?
Le temps de visiter jusqu'à Saint-Martin-Tiscasse, c'est à la route.
Est-ce que vous êtes en contact avec vos amis et votre famille?
J'ai contact avec des amis, avec leur famille, tout ça, j'ai contact en téléphone et tout.
Super. Mais merci aussi nous pour cette petite interview et de nous donner aussi de vos nouvelles pendant le confinement.
Merci.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
C'est moi Philippe. Comme tout le monde, j'ai dû subir le confinement. Et je vous en adresse un petit reportage sur ce confinement, un petit texte. Mon texte concerne mon confinement. Certes, je suis seul dans mon appartement de 300 mètres carrés avec vue sur la mer, mais j'ai ma copine régulièrement au téléphone. Je le vis bien. Je m'occupe entre la télévision et mes activités radiophoniques. Je ne trouve pas si mal l'outil que ça, et je pense à tous ceux qui sont aux urgences et tous ceux qui doivent quand même travailler dans ce contexte. Pour conclure, restez chez vous et écoutez Pas d'affolement du voilà sur RVM 98.4 et podcast sur Internet.
Maintenant, un fait de société. Nous allons parler du coronavirus qui fait parler de lui. Donc, c'est un sujet qui a été récupéré sur le site web du lundi 13 avril 2020. Peut-on contester une amende pour non-respect du confinement? Depuis le 17 mars, date du début du confinement en France, on ne peut plus sortir pour un oui ou pour un non. Désormais, pour aller faire ses courses, se rendre à un rendez-vous médical ou sortir pour faire du sport, il faut se munir d'une attestation de sortie dérogatoire. Celle-ci est téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur et, depuis peu, disponible en version numérique sur smartphone. Elle peut aussi être copiée à la main sur papier libre. En cas de non-respect lors d'un contrôle, vous êtes passible d'une amende de 135 euros et 200 euros en cas de récidive dans les deux semaines. Cependant, comme pour toute amende en temps normal, stationnement, excès de vitesse, vous pouvez la contester via la procédure classique, indique le gouvernement sur son site internet dédié à la crise du coronavirus. Première chose à savoir, il ne faut pas la payer. Ensuite, il faut se rendre sur le site de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, en renseignant la référence de votre amende, ou envoyer une lettre recommandée par courrier auprès de l'officier du ministère public. L'adresse est précisée sur la contravention. Il faudrait jouer dans un formulaire de requête, reçu avec la contravention, voir des documents pour voir un abus de verbalisation. Vous avez un délai de 90 jours pour contester l'amende contre 45 en temps normal. Attention, si elle est confirmée, elle peut être majorée à 375 euros. Merci pour votre attention. Au revoir. Et maintenant, vous allez écouter un morceau de gradure de la part de Kina. C'est Coronavirus featuring S, l'enfoiré. C'est une parodie, ne revient pas, coronavirus.
Et ne reviens pas, si t'attrapes corona. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Et ne reviens pas, si t'attrapes corona. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Si t'attrapes le corona,
C'est soit on vire, soit tu tailles. Nous on veut pas être malade. Et par d'ici, va là-bas. Éternue pas sur ma graille. C'est soit on vire, soit tu tailles. On veut pas être sale. Et par d'ici, va là-bas. Tu reviens de Chine, donc tu t'es senti frais. Mais s'te plaît, vas-y, mets-toi de côté. La maladie te suit, elle hante notre pays. Le virus arrive sur toutes les tables. C'est la panique, c'est pas agréable. Tout le monde s'est masqué, faut se protéger. Tu t'es cru intouchable, mais c'était qu'un rêve. Demande au doc ou à l'hosto, virus c'est pas grève. Maintenant épargne-moi, mais c'est pas la fête. Si tu contamines tout le monde, on aura mal à la tête. Et ne reviens pas si t'as attrapé Corona. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Et ne reviens pas si t'as attrapé Corona. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Si t'as attrapé le Corona, c'est soit on te vire, soit tu tailles. Nous on veut pas être malade. Et par d'ici, va là-bas, éternue pas sur ma graille. C'est soit on te vire, soit tu tailles. On veut pas être sale. Et par d'ici, va là-bas.
Voilà, je suis Brigitte. Je voudrais vous parler du confinement, comment ça se passe à la maison. Le confinement. Nous sommes en confinement depuis un mois. On s'occupe au jardin. Je fais du tricot, de la lecture, d'écouter de la musique. Je fais un peu de cuisine et le ménage. Je regarde la télévision. Joël nous fait les courses. Je vais bien. Il faut faire avec. Être patient car c'est une qualité qui est importante. Bientôt la vie reviendra comme avant. Il faut attendre. En étant de bonne humeur et surtout de garder le moral. Heureusement, nous avons la cour et le jardin. J'ai des nouvelles de Hossine, de Béatrice, Françoise, Isabelle et Nathalie. Bien, c'est-à-dire là, c'est compliqué parce que le déconfinement, lui, va se faire par progression. Ah, oui. Alors les gens, bien sûr, il y en a qui vont vouloir sortir, revivre comme avant, quoi.
Et est-ce que vous, vous savez ce qui vous manque le plus, là, dans le fait d'être confiné?
C'est d'aller à l'hôpital de jour ou d'aller aux réunions, parce que on fait de la réunion, conférence, vidéo. Je préfère en vrai. C'est mieux de se voir en vrai, parce qu'on est fait pour ça, on est pas fait pour être fermé, voilà. Je vous invite à écouter une chanson d'Azedine, La Passe.
La Passe.
Vas-y toi, de me prendre la tête là, qu'est-ce que tu faisais avant? Okay. Toi, tu nous fais ce qu'il y a à faire, c'est pas toi qui donne à manger à ma mère. Alors, reste-moi tranquille un peu.
Je pète les plombs, Benny.
Moi, je veux de l'oseille.
Je veux de l'oseille.
De l'oseille, y'a que ça de concret pour moi.
À toi de voir.
Maintenant qu'il faut des thunes, tu me dis-moi ça sert à quoi de faire des études. De toute façon en France on est gris. J'ai pas besoin d'un diplôme, il me faut des billets. Si maintenant qu'il me faut des thunes, tu me dis-moi ça sert à quoi de faire des études. De toute façon en France on est gris. J'ai pas besoin d'un diplôme, il me faut des billets.
Tu veux quitter l'école? Béné, tu pètes les plombs, tu déconnes.
Non.
Où tu vas, beaucoup ont été. Mais autant que leur sourire, leur avenir y est resté. Ça fait de trois générations qu'on fait les mêmes choses. Pas de la même manière, mais on se fout en l'air pour les mêmes causes. Les mêmes toxicos arrachent leur mère pour les mêmes doses. Les halls changent d'aspect, mais nos frères gardent les mêmes poses. Si tu as quoi, tu t'exposes. Si t'allumes la mèche, petit frère, faut bien que ça explose. Les mêmes contrats avec la rue, contenant les mêmes clauses. On bute si tu causes trop. Respire, c'était claustro. La rue, c'est étouffant. Y'a que des malades, c'est l'hosto. Le parcours atteint de scoliose. Plus personne ne marche droit dans la névrose. C'est ça que tu veux, Bélé? Dis-moi, est-ce que c'est ça que tu veux?
Vas-y, vas-y.
Est-ce que c'est ça ta vie? Béné, dis-moi, est-ce que c'est ça que tu fais?
Ouais, alors?
Hein?
Si maintenant qu'il me faut des thunes, dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est gris. J'ai pas besoin d'un diplôme, il me faut des billets.
Hein?
Si maintenant qu'il me faut des thunes, dis-moi,
dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur TikTok, il faut des billets.
Si t'arrêtes l'école maintenant, dès maintenant je peux te raconter ce qui risque fort de t'arriver, béné. Tu vas monter une équipe, un ancien t'avancera, de la coke et du shit. Pour la bicrave, il faudra un terrain. Comme t'es jeune et brave, tu l'obtiendras à coup de serein. Là, tu prendras la place de mecs qui sont en place depuis trop longtemps et qui oublient que le temps passe, mais chacun son temps. Toutes nos légendes sont mortes ou déchues, enfermées ou fichues parce que trop de séjours en prison, trop de séjours en HP. Quand je rappe la rue, c'est précis, c'est de la HT. Du détail au gros avec du grand et des gros flingues, du fat des grosses tubes, de la bac aux tubes. Victime de ta répute, tout le monde aura un œil sur ta fortune. T'auras plus besoin de personne pour t'avancer quoi que ce soit. Tu descends en Espagne, t'es pas ça. Maintenant c'est toi qui distribue. D'autres attendent dans l'ombre patiemment que tu trébuches.
Ouais, ouais, mais t'inquiète, ils peuvent toujours attendre ma chute. J'serai toujours à la hauteur de ma répute. J'serai rusé, j'aurai confiance en personne, sauf à mes associés. Tous des cassos sont déchiffrés. C'est maintenant qu'il faut des thunes. Tu dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin d'un diplôme, il me faut des billets. C'est maintenant qu'il faut des thunes. Tu dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin d'un diplôme, il me faut des billets.
Maintenant que c'est toi qui distribue, les enjeux ne sont plus les mêmes, ainsi que les problèmes. Difficile de grimper sans faire du mal à personne, sans y laisser ta personne, sa personne n'a pu le faire. Un mec refusera de tout payer, tu tiendras à ce qu'il soit le dernier à essayer. Il créera dans tout banane qui ta banane. Et pour que tu récupères ta cam, il faut que tu le cannes. Quel culot.
Je tuerai personne pour de l'argent, c'est vrai que je veux des thunes, mais j'ai quand même une éducation. Je suis pas cinglé, je vais pas me faire épingler à vie, mais une chose est sûre, je vais pas baltringuer. Hey,
tu penseras ne pas avoir le choix, tu le feras, c'est que tu le buteras, qu'est-ce que tu crois? Sinon d'autres mecs viendront te raqueter ta cam, tes gaufres et les nôtres que t'as mis de côté. Tu tiendras trop à ta réputation d'homme d'action, donc tu passeras à l'action. Ça se prend une fraction de seconde, mortelle sera la sanction pour ceux qui restent en vie et ont vu ton ascension. Ta corde va grimper, et même chez les condés, ton dossier va changer de fichier. Fichier au grand banditisme, t'imagines bien que la fin sera triste. Yeah. Sera balancé sur un coup de fil anonyme, stoppé dans ta lancée. Sur un retour d'Espagne, tu te feras lever, charger. Le pire, c'est que même tes potes vont te charger. Commission, regarde-toi, écoute. T'as pour mettre toutes tes thunes dans le baveux, écoute. Tu feras 10 ans plein, même primaire. T'effectueras ta peine, même si tu pleures des rivières. Seule ta mère va t'assister. Après un an ou deux, tous tes potes vont se désister. Allez, peut-être qu'un seul te restera fidèle. C'est lui qui t'apprendra que ta meuf t'est infidèle. Tu vas péter les plombs, bloqué derrière les barreaux. Sortir au bout de 10 ans, usé au bout du rouleau. Avec une longue liste de comptes à régler. Mais les mecs de ton équipe se sont fait flinguer. Par des petits jeunes ambitieux, braves comme toi à l'époque, encore plus vicieux. Pour pouvoir te refaire, qu'est-ce que tu pourras faire à part monter sur un braco? Mais ça te coûtera cher, Rain. Parce que la prochaine fois c'est 20 ans, t'es temps, car maintenant t'as aucune qualification. T'auras palpé trop de fric pour pouvoir accepter de bosser pour un smic. Tu seras pris dans la spirale, tu te rappelleras mes paroles. Tu enverras ceux qui auront poursuivi l'école. Il sera trop tard, ce qui est fait est fait. Tu regretteras l'époque où tu me disais. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin d'un diplôme, il faut des billets.
C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études?
Ça sert à éviter la bicrave, la violence, la prison. Contempler autre chose que des tours comme en raison.
C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études?
Ça sert à construire un avenir, nourrir l'espoir qu'on peut peut-être obtenir ce que nos parents n'ont plus à voir. L'impasse. On n'en sort pas, mon petit frère nous remplace dans l'impasse.
choristes agressent les touristes, c'est triste. Ici c'est vie hardcore, cash money, risque. Il neige même sur nos collèges. Nos choristes font pas de solfège. Thug life. Histoire se pète et tu crois être le plus vicieux. L'impasse.
Voilà, l'émission se termine, une émission spéciale où je remercie tous les participants qui ont, parce que c'était pas évident sur cette émission spéciale. Tout le monde s'est bien adapté et nous nous retrouverons au mois de mai certainement dans une émission également spéciale. Rendez-vous au mois de mai. Au revoir.
Pas d'affolement. Nous voilà.